à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Vous le savez, c'est le nouvel horaire de l'émission À toi les étoiles. Passez le message à vos amis, à votre famille. Tous les troisièmes vendredis du mois, 17h15, 18h, À toi les étoiles. On parle d'astronomie et d'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles, Danielle Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, se rejoint à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette émission À toi les étoiles. Mais sachez aussi que À toi les étoiles a aussi un parrain qui est Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, et vous savez que souvent, je ne le fais pas exprès, mais voilà, quand la marraine d'À toi les étoiles vient dans À toi les étoiles, et bien souvent le parrain vient l'émission précédente ou l'émission suivante. Et comme Danielle Briot était là et bien le mois dernier, aujourd'hui c'est Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, parrain d'À toi les étoiles, qui est avec nous. Bonjour.
Bonsoir.
Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un thème. On va retracer en fait 60 ans de vol spatiaux habités, hein, puisque 1957, c'est là que tout a commencé, et 2017, donc 60 ans. Et nous allons démarrer tout de suite, Jean-François Pellerin, avec 1957, il y a eu Spoutnik 1 avec son fameux bip-bip.
Oui, c'est vrai, mais le premier lancement d'un satellite, c'est le 4 octobre 57, avec le célèbre bip-bip. Plusieurs années après une course lancée après le V2 allemand de Penmund, et un duel von Braun-Sergei Korolev côté soviétique. Donc premier Spoutnik.
Voilà. On peut entendre d'ailleurs derrière nous, le premier Spoutnik. Et puis on en vient ensuite à Spoutnik 2.
Alors très vite, oui. Trois semaines après, on a le deuxième Spoutnik, 508 kilos au lieu de 83 kilos. Et on a à bord une petite chienne, la chienne Laika, qui est le premier être vivant à orbiter, à tourner autour de la planète Terre. Alors, je vais vous donner une petite info qui est peut-être pas très sexy, mais sachez que les premiers êtres vivants, c'était 10 ans avant Laika, à bord d'un V2 amélioré, et c'était des mouches à vinaigre, des drosophiles, à bord d'un V2 adapté en version civile, balistique. Donc les premiers êtres vivants, et c'était en 47. Donc on fête les 70 ans du premier être vivant à bord d'une fusée, mais les 60 à bord d'un satellite.
Vous faites bien de préciser justement ce détail historique, on peut dire. Et puis on en arrive ensuite à 1961, Youri Gagarin.
Voilà, donc en 61, on a Youri Gagarin qui est précédé de quelques mois par Strelka et Belka, qui sont deux chiens qui auront la chance de vivre autour de la Terre presque 24 heures et de rentrer sains et saufs. Et donc Gagarin, c'est le 12 avril 61, mais il restera pas 24 heures, il reste 1h 48 minutes. On peut le dire aujourd'hui, les risques sont énormes. Hein. Il y a une chance sur deux d'un retour et de ramener sains et saufs un cosmonaute russe, c'est la fusée Vostok. Donc c'est un événement gigantesque. Hein. C'est vraiment le point de démarrage du vol habité et du premier terrien en orbite.
Et pourtant, Youri Gagarin, Jean-François Pellerin, avait une totale confiance. Hein. Sûrement qu'il s'est dit aller à Vienne que pour un, mais non, il avait vraiment confiance en ses équipes.
Il avait confiance parce que ça fait partie un peu du jeu des soviétiques, des russes maintenant, c'est qu'on les entraîne en leur faisant visiter leurs vaisseaux, les moyens techniques, la base de lancement, on les fait rencontrer les ingénieurs, concepteurs, designers des vaisseaux spatiaux, donc ils sont en totale confiance, et c'est vrai que Gagarin, quand il décolle, il a une phrase très simple, on y va, la traduction, et c'est vrai qu'il avait une pleine confiance. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il avait prévu un courrier en cas de décès pour sa femme, qui a été déclassifiée environ 50 ans après. Donc il avait envisagé le décès en cas d'accident.
Et ça a échaudé John Fitzgerald Kennedy, qui, échaudé par ce qui s'est passé avec Youri Gagarin, prononcera un discours célèbre.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
La traduction, c'est dire nous avons choisi la Lune non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile.
C'est vrai, c'est une phrase que j'aime bien et je crois qu'avec 50 ans de recul, ça, on a un peu toujours les poils qui se fait hérisser sur les bras, parce que jamais on a eu un discours aussi fort d'un chef d'État américain depuis. Donc il y a un vrai volontarisme, les Américains sont un peu au pied du mur. Déjà le Sputnik, ça a été un peu le Pearl Harbor technologique pour les Américains pour y poster, et puis Gagarine, bon, c'est carrément là, ça met le feu aux poudres. Et ben ils sont pas prêts. Hein. Il y a toujours pas d'Américains autour de la Terre. Il y a pas des moteurs hydrogène de fusées lunaires de près. On n'a rien de prévu encore pour l'instant. On en est au tout démarrage. On est en 61 et le but c'est avant 70 d'aller sur la Lune pour les Américains.
On en arrive au 20 février 1962, et là, John Glenn est le premier Américain sur orbite.
Alors donc, John Glenn va venger quand même l'Amérique, mais son lancement était prévu en 61. En fin de compte, il va être reporté une quinzaine de fois, et c'est en fin de compte le 20 février 62. Alors, n'oublions pas, en mai 61, au moment du discours de Kennedy, il y a le petit saut de puce d'Alan Shepard, mais ça dure que 15 minutes. Alors que Glenn va faire 3 tours de terre complets, il a des problèmes de bouclier thermique, il y a des voyants qui s'allument, donc quand on le fait rentrer, donc c'est in extremis. Mais c'est le premier, c'est le Gagarine américain qui est décédé il y a quelques mois d'ailleurs, hein, à 95 ans, et qui revolera à 77 ans dans l'espace.
Oui, alors ça, c'est chapeau quand même, hein, ouais, pour John Glenn. On continue, Jean-François Pellerin, dans cette rétrospective, et on arrive à l'année 1965, où Leonov est le premier piéton de l'espace.
Alors 1965, deux grands événements, ça sera les rendez-vous spatiaux entre capsules, parce que ça sera très important pour aller vers la Lune, et utiliser un scaphandre, sortir dans le vide, ça sera nécessaire pour les sorties sur la Lune. Donc le premier à faire ça, c'est le piéton de 18 mars 65, Alexei Leonov. Ça durera un peu moins d'une vingtaine de minutes, et c'est vraiment in extremis qu'il arrivera à réintégrer son sas. Son scaphandre s'est mis à gonfler plus qu'il le faut, et sans que les contrôleurs au sol en soient informés, il va dépressuriser une partie de son scaphandre pour réintégrer la tête de la première, le Vostrod 2. Et quand il en parle aujourd'hui, à bientôt 85 ans, ben c'est clair qu'il a eu vraiment très très chaud. Et aujourd'hui, une sortie dans l'espace, on est capable de sortir pendant près de 9 heures. Alors imaginez, à l'époque, c'était un peu moins de 20 minutes.
C'est quand même une sacrée prouesse à l'époque, c'est vrai. Et puis on en arrive à la fin de cette décennie des années 60, 1969, Paris gagné, hein, John Kennedy l'avait dit, et on entend Neil Armstrong prononcer cette fameuse phrase.
I'm gonna step off the land. That's one small step for man.
Mais un pas de géant pour l'humanité. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans la bande sonore, il y avait pas la fin, mais but gently for humanity, hein, c'est ça.
C'est ça. Neil Armstrong suivi de Buzz Aldrin une vingtaine de minutes plus tard, donc les deux premiers Américains sur la Lune, c'est le défi de John Kennedy, hein, avant 1970, donc ils vont rentrer au bercail dès le 24 juillet. On peut dire juste une mission avant, c'était quelques mois avant, en décembre 68, on avait eu un grand grand show, c'était le premier vol autour de la Lune, ça fait bientôt, on fêtera bientôt les 50 ans, c'était Apollo 8. Oui. Et donc Apollo 11, c'est vraiment le grand show lunaire, hein, vu par 500 millions de personnes en direct, c'est vraiment quelque chose qui aura marqué les esprits. Et souvent, on se dit, pourquoi on n'est pas retourné depuis cette date-là? Bon, on verra par la suite qu'on s'y prépare.
C'est vrai, justement, ça commence à réagir sur Internet. Oui, c'est vrai, vous pouvez poser des questions, hein, via Internet. Et justement, c'est des questions qu'on commence à nous poser. On verra si on a vraiment le temps, parce que c'est vrai qu'on a un programme chargé. On continue, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, avec les années 70 maintenant et 1973. Mon année de naissance, tiens.
Alors, l'année 73, on peut dire que dès 71, on a les premières stations orbitales, avec Salyut 1. Et 73, c'est la grande cathédrale de l'espace, puisque ça fait 6-7 mètres de diamètre. C'est la fameuse station Skylab américaine, qui permettra des vols jusqu'à 3 mois. 1, 2 et 3 mois dans l'espace. Et ça restera à tout jamais, encore aujourd'hui, puisque les modules d'ISS, la station actuelle, c'est des modules de 4 mètres, 4 mètres 30, hein, ça dépasse guère 4 mètres 50. Et là, on avait 6 à 7 mètres de diamètre. C'était le fameux étage, le dernier étage d'une Saturne V. Hein. À l'intérieur, on avait mis une énorme structure et c'était la fameuse station Skylab qui va ouvrir les vols de longue durée dans l'espace et la vie autour de la Terre dans des stations.
On avait ce qu'on appelle la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS avec cette course à la Lune. Et puis, au milieu des années 70, 1975, là, on peut dire, on enterre l'âge de guerre.
Oui, l'année 75, c'est un peu, entre guillemets, une armistice spatiale. Américains et soviétiques s'étaient préparés et ils avaient fait en sorte c'est de pouvoir... avec une pièce d'amarrage spécifique, c'est relier un Soyouz avec un vaisseau Apollo, et ils vont se serrer la main dans l'espace, et ils vont signer un acte comme quoi il y a eu raccord entre le vaisseau Apollo et le vaisseau Soyouz. Donc pour la première fois, et ce qui est curieux, il faudra attendre 20 ans après Apollo Soyouz pour revoir des Américains et des Russes dans l'espace ensemble.
J'ai vu récemment d'ailleurs un film, je me souviens plus le titre, mais juste une petite parenthèse comme ça, où à un moment donné l'acteur dit, puisque ça se passe dans les années 70, oh, tiens tu sais quoi, Apollo Soyouz, les Russes et les Américains ont fait la paix. Donc Apollo, hein, la américain, et Soyouz bien sûr soviétique. 1977, premier vol libre de la navette spatiale.
Alors 1977, le projet 67, oui. Est sorti en 72, a démarré en 72 sous Richard Nixon, donc c'était juste à la fin du programme Apollo. Le but, on pensait qu'on allait rentabiliser les vols en faisant un véhicule réutilisable, le véhicule navette spatiale, et avant de le tester en mode orbital à la verticale pour aller vers l'espace, on va le tester avec des vols captifs sur un Boeing 747, plus... ensuite des vols libres, et au cours de l'été 77, donc il y a 4 membres d'équipage, dont 2 qui seront aux commandes, qui voleront d'ailleurs par la suite sur le programme navette spatiale, vols spatiaux orbitaux, et on pourra démontrer qu'il est capable de faire poser en douceur donc un orbiteur de navette spatiale, mais il faudra attendre encore quelques années pour le faire vers l'espace.
Toujours en 1977, Salyut 6, c'est le 29 septembre 1977.
Oui, en 77, on démarre les stations orbitales. À l'époque de Skylab, 4 ans avant, on n'avait pas des pièces d'amarrage supplémentaires. Donc là, c'est la première fois qu'une station a plusieurs portes d'accès. Donc on va pouvoir faire venir des visiteurs. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir ouvrir, dès 78, le premier cosmonaute non russe, non américain, qui est un Tchèque. Et que l'on pourra accueillir des astronautes pendant une huitaine de jours, en plus de l'équipage de longue durée. Et à bord de cette station, on fera des vols de plus de 3 mois dans l'espace et on montera au niveau de la durée.
Jean-François Pellerin, on vient de retracer 20 premières années de vols spatiaux habités. On va interrompre le temps d'une pause musicale et puis on revient après pour la suite, pour les 20 prochaines années, la deuxième partie de cette émission où on va parler de ce qui s'est passé entre 1977 et 1997. Pour l'heure, c'est Kid United tout de suite avec le titre « Chacun sa route ». Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission « À toi les étoiles ». Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est 60 ans de vols spatiaux habités. On fait la rétrospective avec le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Nous en étions à la première partie de 1957 à 1977. On passe maintenant les 20 prochaines années avec notamment les navettes spatiales. Et le 12 avril 1947, 81, le premier vol de la navette spatiale Columbia.
Alors, 12 avril 81, comme vous avez remarqué, c'est 20 ans, jour pour jour, après Gagarine. Donc, joli pied de nez pour les Américains.
C'était volontaire ?
Non, pas totalement, puisque le tir était prévu le 10, et il y a eu un tir avorté, et c'est tombé le 12, en fin de compte. D'accord. Pour des raisons de temps de préparer les remplissages réservoirs, etc., de reconfigurer, c'est tombé le 12. Sinon, dès le 10, on aurait pu avoir le décollage. Alors, à bord, John Young et Robert Crippen, un vol d'un peu plus de 48 heures. Donc, en 77, c'était les vols libres depuis un 747. On avait démontré que tout était possible pour la trajectoire, le retour. Donc, maintenant, restait à démontrer qu'on pouvait faire un vol spatial. Donc, ça s'est bien déroulé, sans encombre. Premier vol spatial. Il y aura 135 vols de navettes spatiales en 30 ans.
On passe ensuite à l'année 1982 avec Salyut 7.
82, d'ailleurs, il y a un film sur Salyut 7, puisque à un moment donné, il faudra partir la dépanner quand elle est tombée complètement hors service et qu'elle risquait de retomber vers la Terre. Donc Salyut 7, ça sera la station d'ailleurs de Jean-Loup Chrétien dont on parle juste derrière, en 82, c'est la même année. Et Salyut 7 est en orbite depuis très peu de temps et elle permettra des vols de très très longue durée jusqu'à un vol de 238 jours, un vol de 8 mois à bord. Même chose que Salyut 6, mais on va intensifier beaucoup plus les tirs et les lancements vers la station et de plus en plus on va battre des records à bord. Donc Salyut 7, c'est la même famille que Salyut 6.
Jean-François Pellerin, on arrive ensuite du côté français, toujours 1982, le 2 juillet, c'est Jean-Loup Chrétien.
Jean-Loup Chrétien, qui est le premier français breton de l'espace, qui va démontrer qu'un Européen de l'Ouest peut voler à bord des Soviétiques suite à un accord qui avait été signé à l'époque du président Giscard d'Estaing et de Léonid Brejnev. Donc pendant 8 jours... il va pouvoir séjourner à bord de cette station-là, qui est Salyut 7, mission PVH, premier vol habité.
Et puis, on arrive ensuite à l'année 1984, le 7 février 1984.
1984, vous avez un grand événement. Depuis une navette spatiale, Bruce McCandless va être un cosmonaute qui va prendre tous les risques, puisqu'il va quitter et il va s'éloigner d'une centaine de mètres de la navette spatiale, monter sur un MMU, qui est un genre de fauteuil de l'espace, avec des petits systèmes de propulsion. Il va s'en éloigner d'une centaine de mètres, ce que ne feront jamais les Russes sans couper le filin de sécurité, parce que depuis une station comme la station Mir, ils l'ont fait en 90, ils n'avaient pas les moyens de manœuvrer comme c'est le cas avec la navette spatiale. S'il y avait eu un pépin grave, la navette spatiale pouvait changer sa trajectoire, pouvait aller jusqu'à Bruce McCandless et aller le chercher. Il est à remarquer une chose, c'est qu'on ne le refera jamais, si ce n'est que ça restera expérimental. Par la suite, ça sera des sorties beaucoup plus contrôlées et sécurisées.
On arrive ensuite à l'année 1986. Alors, la NASA célèbre un anniversaire à cette année.
À l'année 86, il y a à la fois deux grands événements. Oui. C'est le survol d'Uranus. Je me souviens du Science et Avenir qui avait titré le succès du survol d'Uranus par une sonde voyageur. Et au même moment, il y avait le drame de Challenger. Moi, je me souviens, j'étais à Arianespace à ce moment-là. On m'a téléphoné pour me prévenir. C'est vrai que c'est le choc. À 73e seconde, il y avait Christa McAuliffe, institutrice à bord. Donc imaginez toutes les écoles, les instituteurs, tout le corps enseignant, les élèves qui regardaient ça en direct. Donc suite à un problème de joint sur l'un des boosters, il faisait beaucoup trop froid au moment du décollage. Ça sera démontré par la suite. Il y aura une commission d'enquête, un arrêt du programme pendant 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est vraiment un grand drame pour l'Amérique avec 7 personnes décédées avec la navette spatiale.
Et Jean-Michel Jarre, les habitués d'À toi les étoiles savent que je suis un fan, devait faire un concert avec une liaison en direct justement avec la navette Challenger, un des astronautes, et a failli annuler ce concert. Et la NASA a dit non, il faut au contraire, et il a renommé d'ailleurs son dernier morceau Rendez-vous 7 en John Peace. Enfin, je ne me souviens plus vraiment du titre, mais c'est quelque chose comme ça, voilà, pour lui rendre hommage. On continue à l'année 1986 toujours avec le lancement du premier module.
86, c'est le début d'une première vraie station orbitale modulaire de grande ampleur. Donc c'est le premier module qui est lancé pour la station Mir, le module de base. Il y en aura bien d'autres après. Et Mir, ça sera 15 ans d'opérationnel, d'exploitation, plus de 137 cosmonautes qui vont habiter à bord. Donc 86, c'est à la fois l'accident terrible de Challenger et c'est le début de la station Mir.
Voilà, c'est une charnière en quelque sorte.
C'est une charnière, oui. Ouais.
1988,
on retrouve Jean-Loup Chrétien, qui a passé 30 jours à bord de Mir et qui a été le premier non russe non américain à sortir en scaphandre. Et il rentre sur Terre avec deux recordmen de l'espace, Titov et Manarov, 366 jours dans l'espace. Pour la première fois, un équipage reste sans discontinuer une année complète en absence de pesanteur. Alors, je vous cache pas que les cosmonautes n'étaient pas en état de courir un 100 mètres à l'atterrissage. Hein. Il faut tout un processus de réadaptation progressif. Ben, c'est une belle performance pour la première fois. Donc, un équipage reste un an à bord de Mir. Et il y a effectivement une belle infrastructure. La station Mir permettra de très grands records de vols spatiaux habités.
Effectivement. On passe ensuite aux années 90 et notamment l'année 1992, Jean-François Pellerin.
Alors, 92, on peut dire que deux ans avant, il y a une belle mission.
Oui.
Le lancement de Hubble. Pour la communauté astronomique, grâce à la navette spatiale, le Hubble Space Telescope. Un an et demi plus tard, on a un putsch dans Moscou, on a la fin de l'URSS fin de 91, et il s'avère que des cosmonautes restent à bord de Mir et sont informés par les radioamateurs qu'il se passe des événements au sol, qu'il y a même des chars dans Moscou. Et il y a un certain Sergueï Krikalev, qui est son commandant Volkov. Ils sont les deux derniers soviétiques à redescendre, et quand ils vont redescendre, ils ont leur drapeau soviétique, ils arrivent en République autonome du Kazakhstan, et il aura au compteur 311 jours de vie dans l'espace, et il aura eu un report de plusieurs mois pour des raisons politiques, il y aura eu un cosmonaute kazakh qui aura pris la relève, donc lui n'aura pas pu descendre au bout de 5 mois comme prévu, et il restera près de 11 mois dans l'espace.
Oui, ça fait une sacrée rallonge quand même, hein, avec tout ça. 1995, on parle encore des Russes, Jean-François Pellerin.
Alors 95, c'est le record du monde, hein. Trois ans après, Polyakov, lui, va rester 14 mois et demi, 438 jours dans l'espace. Donc pour l'instant, on n'a pas battu ce record, hein. C'est un médecin russe qui a été pendant longtemps le directeur adjoint de l'Institut de biologie et de médecine spatiale de Moscou. Et il s'était entraîné avec un autre cosmonaute qui a laissé tomber l'entraînement. Le but, c'était de faire un vol de 16 à 18 mois. Et en fin de compte, on a raccourci un peu la durée. On a fait 14 mois. Et il s'avère qu'on n'a pas rebattu ce record depuis.
Je suppose que lui non plus ne devait pas pouvoir courir un 100 mètres en revenant sur Terre.
Mais en revenant, il y a une très belle image où on le voit avec une tasse de thé dans la main. Son visage est très gonflé, bouffi par le sang, par l'afflux de sang, parce qu'en apesanteur, vous avez une redistribution des masses sanguines. Donc tout ça, ça se modifie. Et retour à Terre, faut attendre plusieurs semaines pour pouvoir avoir une vraie réadaptation. Et donc en 95, quand il est au sol, il est dans un fauteuil et on le porte avec le fauteuil. Donc il est évident que c'est quand même une performance de l'extrême. Hein.
1995, là on arrive à une date importante aussi, Jean-François Pellerin.
95, de nouveau, comme Apollo Soyuz, mais 20 ans plus tard, au mois de juin, américains et russes, de nouveau, recréent des liens entre eux, et des équipages américano-russes vont pouvoir travailler ensemble. Donc une navette spatiale Atlantis va s'amarrer à la station Mir. Alors un petit détail, au mois de février, on avait déjà fait une répétition générale. D'ailleurs, il y a une très belle photo où on voit Polyakov qui regarde à travers le hublot et il y a une navette spatiale, je crois que c'était Discovery, qui s'était approchée de 10 mètres hein, de la station. Mais on n'avait pas fait l'amarrage et on l'a fait au mois de juin avec Atlantis.
Parce que le choix de l'année, c'est le hasard aussi ou
Je sais pas si c'est le hasard. Ça faisait partie d'un programme de coopération franco-russe, puisque il y avait un projet de navette spatiale côté soviétique qui a été abandonné. Hein. Il y a eu un tir en 88 et un lanceur Energia lourd, très lourd. Il y aura qu'un seul vol en mode automatique et il était prévu justement de possibilité, les Russes, ils voulaient rejoindre leur station et en fin de compte il s'est décidé, on a pris conscience qu'un programme de station orbitale ou de navette spatiale, c'était la limite budgétaire, la limite technologique d'une grande nation et que si on voulait marier navette spatiale plus station, ben, il fallait le faire entre Américains et Russes. Et c'est avéré que par rapport aux décisions, ben, c'est tombé un peu, je dirais, sur à la date anniversaire, 20 ans après Apollo Soyouz.
Jean-François Pellerin, vous êtes membre aussi de l'association Planète Mars et je suppose qu'en 1997, vous avez suivi avec grand intérêt ce qui s'est passé sur Mars.
Oui, c'est vrai. Avec notamment, je crois que c'était la Cité des Sciences avec la Société Astronomique de France et il y avait la retransmission. Et on a souvenir de ce petit Rocky, de ce petit véhicule grand comme un micro-ondes qui a déclenché des centaines et des centaines de millions de connexions sur les sites de la NASA. Alors il a pas vécu longtemps, hein. Il a vécu 3-4 mois, il a fait quelques centaines de mètres. Et ça a déjà 20 ans, ça fait déjà 20 ans qu'on roule sur Mars. Hein. Quand on pense qu'on roule en ce moment avec deux rovers, dont un qui va bientôt fêter 14 ans, hein, Opportunity. Donc il y a pas mal de monde sur Mars et autour de Mars, et j'ai une pensée toute particulière, et effectivement à notre conseil d'administration, on suit ça de très près, et c'était déjà il y a 20 ans.
Eh oui. Reste avec nous, puisqu'on va revenir dans un instant avec Jean-François Pellerin pour cette troisième et dernière partie. On va parler des 20 dernières années, 1997-2007, et puis quelques mots sur l'avenir aussi. Auparavant, on va écouter Peps avec le titre Elma. On se retrouve juste après pour cette dernière partie d'À toi les étoiles.
Elle m'a dit...
Dernière partie de cette émission, À toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème, c'est 60 ans de vols spatiaux habités. Notre invité, c'est Jean-François Pellerin, le parrain d'À toi les étoiles et qui est journaliste scientifique. On arrive donc aux 20 dernières années, 1997-2017, 20 ans de vols spatiaux habités. Et on commence par l'année 1998, Jean-François Pellerin.
Alors 98, on rentre dans une nouvelle ère. Nous étions déjà dans une vision de station spatiale habitée en permanence avec la station Mir, qui sera habitée sans discontinuer pendant 10 ans. Et là, on va créer un embryon d'une nouvelle station encore plus grande, qui aujourd'hui fait 450 tonnes. Et c'est le premier module en 98, Zarya, qui va permettre ensuite d'assembler un grand mécano. C'est la fameuse station internationale que l'on connaît aujourd'hui, qui a voilà. Bientôt 20 ans.
On arrive ensuite aux années 2000, et notamment l'année 2001.
2001, ouverture vers un autre secteur, le secteur touristique de l'espace. Pour la première fois, on a un astronaute, entre guillemets, non professionnel, bien qu'il soit un ingénieur du spatial. C'est un millionnaire qui est passionné d'astronautique, c'est Denis Quito. 28 avril 2001, donc il va faire un vol d'une dizaine de jours à bord de la station internationale. Hein. Et non, je dis une bêtise, là, c'est la station Mir. Hein,
c'est la station Mir, oui.
C'est la station Mir qui existe encore, puisqu'elle sera détruite juste après.
Effectivement, oui. On arrive à l'année 2003, alors là, il y a une catastrophe cette année-là.
2003, oui, c'est la deuxième catastrophe de la navette spatiale, donc Columbia, mission STS 107, au retour. Il y a eu un incident au décollage, une structure de protection s'est décrochée et est venue percuter violemment un bord d'attaque d'une aile de la navette. Donc il y a un flux... qui est rentré à l'intérieur de chaleur très intense au retour et qui est venu totalement pulvériser, désintégrer la navette à partir du survol de la Californie, puis toute sa trajectoire, des milliers de débris sur tous les États-Unis. Alors ils ont vécu quand même dans l'espace, hein. Ils ont vécu 16 jours et c'est le premier cosmonaute israélien qui volait à bord, hein. Pas de chance pour lui. Donc, de nouveau, 7 astronautes décédés. Le retour, 1er février 2003.
On en arrive ensuite à la Chine, qui entre aussi dans la puissance spatiale.
La Chine rentre aussi dans le clan très fermé des cosmonautes. Taïkonaut, le oui. Terme chinois. Premier taïkonaut, Yang Liwen, va passer presque 24 heures dans l'espace au mois d'octobre de l'année 2001. Et il va démontrer qu'on peut faire décoller un Chinois depuis le territoire chinois avec une fusée chinoise, une capsule Shenzhou chinoise, qui ressemble un peu au Soyouz, hein, d'ailleurs, quand vous voyez les images. Et c'est la troisième nation du monde qui envoie son propre cosmonaute.
Et on arrive ensuite à 2004 avec le premier vol spatial privé, Jean-François Pellerin.
En 2004, ça c'est important de montrer qu'on ouvre au spatial privé. On peut dire que d'ailleurs, deux ans avant, on a vu la création de SpaceX par Elon Musk. Hein, et cinq ans avant, Bigelow Aerospace, vous savez, les fameux modules gonflables d'un millionnaire américain qui rêve de grandes stations dans l'espace avec des modules gonflables. Alors oui, le spatial privé avec le Spaceship One de l'entreprise Kell Composite, il atteint plus de 100 km d'altitude et il y aura le fameux prix X Prize qui sera gagné puisqu'à deux reprises, à 15 jours d'intervalle, ils vont faire cet exploit. Et la suite, c'est le fameux Spaceship Two, mais il y a eu un accident avec mort d'un pilote d'essai, donc avec la fameuse entreprise Virgin Galactic, donc c'est pas gagné d'avance. Le but, c'est d'ouvrir au tourisme spatial.
On accélère un petit peu parce que je vois que le temps passe très vite, Jean-François Pellerin. On a parlé d'Opportunity tout à l'heure.
Spirit 2004, Spirit et Opportunity qui battent des records de distance. Il y a toujours Opportunity qui va bientôt faire deux septennats, hein, qui va fêter en janvier ses 14 ans sur le sol de Mars.
Tout à fait. Et puis en 2012 aussi, il y a eu...
2012, le privé, grâce à Elon Musk, le milliardaire, l'entreprise SpaceX, premier amarrage d'une capsule Dragon sur la station internationale. Un jour, puis peut-être d'ici 2-3 ans, ça sera avec des astronautes.
Et je suis surpris, Curiosity, ça fait déjà de 2012 aussi.
Ça fait déjà 5 ans.
Ah, oui.
Ouais, depuis 5 ans, on a Curiosity en attendant son jumeau de 2020. On a déjà 5 ans de Curiosity qui arpente le sol et qui avance et avance. Il a dépassé sa durée de vie qui était prévue.
On parlait tout à l'heure d'un éventuel retour sur la Lune et en 2014, on a fait des tests. En
2014, oui, avec la fameuse fusée, pas avec la fusée encore parce qu'elle est en préparation, on aura une fusée un peu comme Saturn V Apollo, la SLS, Space Launch System. Et là, avec un autre lanceur, on a fait une démonstration d'une capsule Orion, d'une rentrée atmosphérique, un peu comme si on revenait de la Lune. Et ça s'est bien passé. Donc, on réfléchit vraiment à un retour vers la Lune.
Espérons que ce soit très bientôt. En 2016, il y a une mission record de 30 jours avec des taïkonautes.
Oui, au moment où il y avait Pesquet qui allait quasiment décoller, une mission d'un mois de deux Chinois à bord de Tiangong 2. Tiangong, c'est les stations orbitales, hein, c'est un peu comme les Salyuts soviétiques de la belle époque. Et ils vont rester un mois dans l'espace. C'est une belle performance. Les Chinois vont envisager ensuite des vols bien plus longs.
Et puis nous arrivons à cette année 2017.
Thomas Pesquet. Et à l'heure où on parle, aujourd'hui, c'était il y a pile poil le 17 novembre de l'année dernière, décollage de Thomas Pesquet. Donc premier vol du 10e Français dans l'espace, qui n'a que 39 ans, donc qui aura certainement une belle carrière qui va sourire devant lui.
Et je vous jure que la date de l'émission est totalement par hasard, ça n'a rien à voir. Jean-François Pellerin, donc il nous reste très peu de temps maintenant pour terminer. Parler de l'avenir, 2017-2037, qu'est-ce qui va se passer dans les 20
Alors,
prochaines
plein
années?
Plein de choses. 2037, pour nous, Mars Society, association Planète Mars, fondée par Alain Souchier, et Richard Edman et Robert Zubrin et bien d'autres, et par Elon Musk, qui a été créateur, l'un des membres fondateurs aussi de la Mars Society. On pense que la date butoir pour Mars, le vol habité, ça serait 2037. Et si on fait une chronologie inversée, on pense qu'en 2033, on pourrait déjà être sur Phobos.
Ah oui, 2033. D'accord. Un des satellites, oui.
L'un des satellites, un peu comme un camp de base dans l'alpinisme pour viser l'Everest ensuite, viser Mars. À partir de 2029, on parle d'un début d'assemblage de ce qu'on appelle le Moon Village de l'Agence Spatiale Européenne. Une forme de base, de village. Enfin, quand on discute avec Claudie Agnoret, préfère dire village que base, comme base en Antarctique. J'ai noté 2027, mais ça pourrait être un peu avant, l'arrivée de Taïkonaut chinois. C'est à peu près la date. D'ici deux ans, ils vont ramener des échantillons martiens. Oui. Et la phase ultime, après le retour d'échantillons, ben c'est l'arrivée de Chinois sur la Lune. Donc ça sera un grand événement. En 2013, il y avait le lapin de Jade, le petit rover. Hein. Oui. On pense que juste avant 2026, il y aurait des retours d'échantillons possibles dans la fenêtre martienne de 2026. De petits conteneurs qui auraient été préparés dès le rover sophistiqué de 2020, qui fera même des prélèvements à 2 mètres, 2 mètres 50 sous le sol de Mars. où là on pourrait donner pour mission, c'est de préparer des petits conteneurs qui seraient préparés en vue de les récupérer par une mission martienne suivante. Alors 2026, il y a le fameux projet ITS, colonisation d'Elon Musk. Mais bien évidemment, Elon Musk, quand il annonce quelque chose, là, il a quand même ajouté des choses à son grand scénario martien d'une fusée de 10 500 tonnes. Maintenant, il parle de 5 000, 5 500 tonnes. Il a revu un peu à la baisse. Mais on attend un grand événement à la fin de l'année, le 29 décembre. C'est le lancement de son lanceur lourd de 1 420 tonnes, la Falcon Heavy, Falcon lourde. Hein. Il fait voler des Falcons.
Vous parlez pour 2017, là.
Oui, oui.
D'accord.
Décembre 2017. 2024, on pense pouvoir envisager, il y a un accord en cours, enfin c'est pour les pro-lunaires ça, je suis pas 100% pro-lunaire, mais une station possible pour l'avenir, après ISS, c'est de faire une station en orbite lunaire, habitée.
Sur la Lune, ah oui, qui tourne autour de la Lune au lieu de tourner autour de la Terre.
Voilà, d'accord. De faire une tête de pont autour de la Lune plutôt que d'être en orbite basse à 400 km, de se positionner autour de la Lune. Et l'orbite basse ne serait pas totalement abandonnée. On parle d'hôtels de l'espace, de sociétés privées, de stations privées, mais on parle aussi des Chinois. Dès les années 2020, une station Mir chinoise qui viendrait accueillir des cosmonautes étrangers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a plusieurs astronautes de l'Agence spatiale européenne. On en a deux, trois qui parlent le chinois. Il y en a deux qui ont fait des entraînements survie avec le Shenzhou, avec des astronautes chinois. Donc, il y aura une station Mir dans les années 2020 qui sera chinoise. Puis le début des 20 prochaines années, on a 2019, c'est les fameux vols privés d'astronautes dans l'espace grâce à SpaceX, grâce à d'autres entreprises. Jeff Bezos, patron d'Amazon, avec sa société Blue Origin. Et on a d'autres projets. Il y a le projet Orion MPCV entre Américains et Européens. C'est le futur vaisseau Apollo, à la fois pour le système solaire, pour aller vers Mars avec un véhicule d'espace profond, ou pour revenir vers la Lune. On a 20 ans qui seront très chargés, et c'est le retour vers la Lune pour s'y installer. Et j'aimerais vraiment, en 2037, c'est la date butoir que je me suis donnée, j'aurai 75 ans, moi j'ai envie de voir ça.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-François Pellerin d'avoir participé à cette émission À toi les étoiles. On parle de votre dernier livre, Embarquement pour Mars, préfacé par Thomas Pesquet, c'est sa troisième édition.
Préfacé par Thomas Pesquet, et c'est toute l'équipe de l'association Planète Mars, co-dirigée par Richard Edman, Alain Souchier, Pierre Brisson, moi-même, et plein de grands noms comme Charles Frankel, Jean-Marc Salotti et bien d'autres que vous retrouvez en page de dernière couverture. Et juste un dernier livre à citer qui retrace tout ce qu'on a vu ce soir, Aventure dans l'espace, préfacé par Patrick Baudry. C'est mon livre qui raconte toute l'histoire de la conquête de l'espace.
Merci Jean-François Perrin d'avoir participé à cette émission À toi les étoiles pour retracer 60 ans en 45 minutes. Ça a été vite quand même. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Quant à nous, eh bien, on se retrouve le deuxième vendredi du mois de décembre pour À toute vapeur. Et puis le troisième vendredi du mois de décembre pour la dernière émission À toi les étoiles de l'année. On parlera des 130 ans de la Société Astronomique de France avec Patrick Baradeau, son président, et Gilles Davidowicz qui seront en chair et en os dans les studios. Et d'ailleurs, les 130 ans, il a fait aujourd'hui à Paris au ministère de la Recherche. Merci d'avoir participé, d'avoir suivi cette émission. Très bon week-end à tous et rendez-vous le mois prochain.